Bon, on va continuer notre étude sur la Providence. Ce soir, on va voir la Providence et l'œuvre de la sanctification. On va voir trois idées principales. La première, la sanctification. Le Seigneur utilise les circonstances de nos vies, par exemple pour la correction. Et il utilise aussi la sanctification par la commémoration. Il fait en sorte qu'on se souvienne de certaines choses. Et il fait aussi la sanctification dans nos vies par la conscientisation. Le Seigneur nous rend conscients de certaines choses qu'on a besoin de savoir. Alors, le premier point qu'on va regarder, c'est l'œuvre de la sanctification par la correction. Alors, la mortification de nos affections et passions sécheresse n'est que la moitié de notre sanctification. Romains 6, verset 11, ça dit ainsi, « Vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Jean 15, verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors, le Seigneur utilise deux moyens pour nous sanctifier. Il y a la façon externe et aussi une façon interne. Dans Romains 8, 13, quand on fait une étude sur la mortification du péché, Romains 8, 13 revient régulièrement parce que c'est un verset clé dans la doctrine de la mortification du péché. Dans Romains 8, 13, on ne rentrera pas dans les détails du verset ce soir, mais c'est un verset important pour la mortification. Il dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Alors, ça, c'est la façon interne. Le Seigneur se sert du Saint-Esprit pour changer des choses en nous, nous faire prendre conscience de certains péchés, et nous mettre à cœur de prier le Seigneur de changer ces choses-là. Donc, c'est un travail qui se fait de façon interne. Le Seigneur utilise aussi un autre moyen, qui est une façon plus externe. Il utilise les circonstances providentielles. Je pense que cette fois qu'on le mentionne dans l'Assemblée, les circonstances providentielles, c'est l'ensemble des choses que le Seigneur permet qu'on vive dans notre quotidien, tout au long de notre vie chrétienne, et par ces circonstances-là, il change des choses en nous. Alors, les deux moyens, l'esprit qui nous amène à mortifier le péché, donc la façon interne, et la façon externe, donc le Seigneur qui utilise nos circonstances, c'est les deux moyens unis. Le Seigneur utilise les deux moyens pour nous sanctifier. Alors, ce sont, je ne sais pas si vous avez déjà lu, vous avez sûrement déjà lu le passage dans Ézéchiel où on parle des roues. Des fois, on se demande c'est quoi, c'est pas. Alors, Ézéchiel, ce n'est pas nécessairement le livre le plus facile à comprendre et à interpréter. Mais on dit souvent que les roues mentionnées dans le livre d'Ézéchiel, c'est les circonstances que Dieu permet. Tu sais, des fois, tu rencontres une personne, à cause que tu rencontres une personne, il arrive une telle affaire, c'est comme, on dirait que la vie, c'est comme un ensemble de roues. Alors, souvent, le passage d'Ézéchiel, les roues, c'est les circonstances providentielles de nos vies. Alors, ça dit dans Ézéchiel 1:20, par exemple, dans la version de David Martin, « Vers quelque part que l'Esprit voulut aller, ils y allaient, par les roues. L'Esprit tendait-il là, ils y allaient. » Et les roues s'élevaient vis-à-vis d'eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Alors, bien entendu, quand on lit des commentateurs sur Ézéchiel, on nous parle de ces roues-là comme étant les circonstances de nos vies. Les choses s'enchaînent l'une avec l'autre. Des fois, une rencontre peut permettre que tu sois sauvé. Alors, c'est le Seigneur qui travaille avec tout l'ensemble de nos circonstances. Alors, ces deux façons-là sont nécessaires, car il reste beaucoup de corruption en nous. S'il reste beaucoup de corruption en nous, même après notre salut, la sanctification, ça veut dire que le Seigneur va nous rendre, va nous séparer, sanctifier, ça veut dire séparer. Il va nous séparer du mal par ces deux moyens-là. Dans Romains 7, versets 22 à 24, ça dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. » On le sait, on l'a tout expérimenté, ça. Si on avait la puissance nécessaire pour accomplir la perfection et obéir à la perfection au décalogue, à la loi de Dieu ou à la Bible, on le ferait. Mais quelque part, ça dit, mais Paul, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Le Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Alors, ça ne veut pas dire qu'à cause qu'on est sauvé, qu'on n'a plus le combat. La vieille chair, le Seigneur a permis que la sanctification soit un processus qu'on vive dans notre vieille chair. La vieille chair est présente encore, mais la différence, c'est qu'on a la nouvelle nature qui nous permet de vaincre l'ancienne. Mais le problème, c'est qu'on laisse souvent trop de place à l'ancienne et la mortification ne se fait pas. Et le Seigneur se sert à la fois du travail de l'esprit à l'intérieur de toi et à la fois dans le tricotage, qu'on pourrait dire, de tes circonstances pour t'amener à te sanctifier. Donc, souvent, les circonstances, le but des circonstances de ta vie, c'est de t'amener à que le mal s'éloigne de plus en plus de ta vie. Alors, bien sûr, le Seigneur a un rôle extrêmement important là-dedans. Donc, le Saint-Esprit, de façon interne, résiste à nos inclinations pécheresses. La Providence, quant à elle, installe de façon externe des obstacles et des blocages sur nos chemins pour empêcher et prévenir le péché. On lit par exemple dans Job 33, versets 16 à 19, « Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. » Et on pourrait prendre une multitude d'autres versets, dans le fond, qui vient nous parler que le Seigneur se sert de toutes sortes de moyens, soit pour empêcher que le mal s'installe dans nos vies, ou soit pour qu'on se débarrasse de certains péchés pour lesquels on a de la misère à se débarrasser. Osée 2, verset 6. Alors, on voit un exemple ici de Dieu qui bloque le chemin d'Israël dans sa marche corrompue. Israël marchait de façon corrompue, et le Seigneur met quelque chose sur la route d'Israël pour les bloquer. Donc, à quelque part, on voit l'intervention extérieure. Il dit, c'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve le plus ses sentiers. Autrement dit, elle marche dans le mal, et le Seigneur utilise une image, les épines, il utilise une autre image, un mur, afin d'empêcher qu'elle continue dans la route dans laquelle elle est engagée. Alors, si ça dit ça dans Ésaïe pour le peuple d'Israël, mais Dieu fait la même chose pour nos propres vies également. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 6 et 7. « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. » Voyez-vous, Paul, c'est un grand... On parle souvent de Paul comme étant un des plus grands saints qui a jamais existé. Il y avait eu des privilèges du Seigneur que la plupart des chrétiens ne connaîtront jamais. Et il y avait un risque à ça. Et le risque, c'était qu'ils s'enorgueillissent, qu'ils se prennent pour un autre, autrement dit. « Ah, ben moi, c'est pas pareil, j'ai des révélations du Seigneur. » Alors, il y avait un risque, et le Seigneur envoyait dans sa vie quelque chose pour l'empêcher de s'enorgueillir. Alors, on voit la main de Dieu dans nos vies peut permettre la même chose, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. On voit la main de Dieu qui intervient dans nos vies pour empêcher qu'on s'enorgueillisse ou qu'on tombe dans quelque autre forme de péché que ce soit. Et un des moyens que le Seigneur utilise les afflictions. Combien on a d'afflictions dans nos vies, ça n'arrête pas, hein, des fois. Je me souviens plus dans quel livre ça dit ça. On dirait que l'homme est venu au monde comme les étincelles pour le feu. Je pense que c'est dans. En tout cas, je ne me souviens plus exactement dans quel livre, mais je sais qu'il y a un livre qui dit ça. Autrement dit, l'homme, c'est naturel. C'est aussi naturel pour l'homme d'avoir des afflictions dans sa vie que quand il y a un feu qu'on voit des étincelles monter. C'est une belle image, je trouve. Alors, le Seigneur utilise les afflictions dans nos vies, justement pour s'en servir comme une verge de correction. Alors, il s'en sert souvent, Dieu s'en sert pour signifier son mécontentement envers nous. Souvent. Job 10, verset 17, tu m'opposes de nouveaux témoins, tu multiplies tes fureurs contre moi, tu m'assailles d'une succession de calamités. Je me souviens d'avoir entendu un témoignage d'une personne qui a un gros site web aujourd'hui, c'est un leader chrétien qui dénonce des choses. Et il racontait que, il l'a dit en public, je pense pas que je fasse rien de mal en racontant son histoire, même je ne nomme pas son nom, mais de toute façon, ce qu'il racontait, c'est que le Seigneur l'avait mis dans une circonstance où il y avait plein d'argent. Et là, il s'est mis à investir dans des blocs appartements, puis là, toute son idée était centrée sur il faut que j'accroisse ma fortune, il faut que je fasse plus d'argent. Et là, son idée elle s'est tassée, puis elle s'est en allée du côté des biens matériels, puis du côté du prestige, puis du côté de tout ça. Mais le Seigneur a permis, parce qu'il avait donné l'administration de tous ses biens, un paquet de blocs appartements, à un administrateur. Et cet administrateur-là l'a volé, autrement dit, a fait en sorte qu'il a été lavé de tous ses biens. Bien, c'est sûr, quand une personne, une affaire comme ça lui arrive, avouer ça comme une immense épreuve. J'ai tout perdu ma fortune. Mais dans le fond, c'est une affliction qui était nécessaire. Il fallait que le Seigneur te brise sur le côté de ton attachement à l'argent, ton attachement au matérialisme, dans le but de te remettre sur le chemin, dans le chemin étroit et resserré, parce que sinon, il s'en allait à l'adoration de Mammon. Alors le Seigneur, il fait ça. Pour tout le monde, pour tous les siens, à quelque part, il se sert des afflictions pour parfois changer des choses en nous. Alors, les calamités, si on veut lui donner les définir, c'est en général des grands malheurs publics, des épidémies. Pas si vous avez déjà lu l'histoire de l'Église, mais quand vous lisez, disons, 15e, 16e siècle, il y a eu des grandes épidémies de peste en Angleterre. Quasiment, des fois, le deux tiers d'un pays disparaissait par la maladie. La peste. Le monde mourait comme des mouches. Et c'est arrivé au cours de l'histoire très, très, très souvent, ça. Alors, les calamités, le Seigneur s'en sert souvent pour montrer au monde qu'ils sont tellement enracinés dans le mal que ça a pour but de les ramener à réfléchir au mal qu'ils font, puis à rétablir leur situation avec Dieu. Alors, les épidémies, il y a les guerres aussi. Guerre 14-18, guerre 39-45. Quand on se met à regarder des films de tout ce qui s'est passé dans la guerre 39-45, c'est inimaginable le mal qui s'est fait là-dedans. C'est inimaginable la souffrance, la douleur qu'il y a eu dans les camps de concentration, etc. Il ne faut pas penser que c'est juste les hommes qui amènent ça, que Dieu est hors du contrôle de toutes ces choses-là. Il les permet. Et ça a des buts. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Et des inondations, on entend parler des tempêtes énormes qui détruisent des régions, même ici au Québec, on en a eu récemment. Le Seigneur est au contrôle de ces affaires-là, et il fait ces choses-là avec intelligence, avec sagesse, et ça a toujours un but. Nous, on est porté très facilement à oublier ça. Il y a juste les croyants, quand il arrive une affaire de même, qui sont capables de considérer et de comprendre que c'est Dieu qui envoie ça. Et même dans des circonstances aussi difficiles que ça, on se devrait pour un chrétien, de se tourner vers le Seigneur et de lui dire que ta volonté soit faite. Je sais que c'est plein d'intelligence et c'est plein de sagesse que ce que tu fais. Même si vu de l'extérieur, ça n'a pas l'air de tout pantoute. Alors, le psaume 6, versets 1 à 2. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à huit cordes. Psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Jérémie, chapitre 10, verset 24. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Quand même spécial, hein? Tu demandes au Seigneur, châtie-moi, ô Éternel. On fait ça des fois, nous autres? Priez le Seigneur de te châtier. Ecclésias, chapitre 10, verset 8. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Alors, bien entendu, notre muraille, c'est la loi de Dieu. Si nous la renversons, notre conscience, qui est un serpent, nous tourmentera et nous expérimenterons les dents acérées de l'affliction. C'est une image. Donc, Dieu utilise les afflictions. Deuxièmement, Dieu a un dessein et un but en nous affligeant. Dieu veut nous purger et nous nettoyer des pollutions dans lesquelles nous plongent les tentations autour de nous. Ésaïe 27, versets 8 et 9. On a ici Dieu qui se sert de l'exil. Il envoie son peuple en exil. Et à cause qu'il adorait des idoles, et la façon de leur enlever l'amour des idoles, c'est de les faire souffrir. Mais il ne faut pas lire l'histoire de l'Ancien Testament et voir uniquement l'histoire d'Israël là-dedans. Israël, c'est le peuple de Dieu au complet. C'est la manière d'agir de Dieu envers son peuple. Alors nous aussi, le Seigneur va utiliser des moyens semblables. Ce n'est pas nécessairement l'exil, mais ça va être des afflictions, des choses qui vont nous ramener, pas comme l'exemple que je vous ai donné tantôt, le gars qui a, je ne sais pas moi, 10, 12, 15 blocs appartements de 25, 30 appartements chacun, puis qui perd tout ça du jour au lendemain, ça doit donner un grand coup, comme on dit. Mais pourtant, après coup, il va être capable de dire, Seigneur, je te remercie d'avoir permis que je sois lavé comme ça, parce que je m'en allais sur un chemin d'attachement complet, juste aux choses de la terre. Ésaïe 27, versets 8 et 9. Il dit, « C'est avec mesure que tu l'as châtié, par l'exil, en l'empruntant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi, le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux, réduites en poussière, les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. » Vous, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, c'est avec mesure que tu les as châtiés par l'exil. Autrement dit, il est en train de dire, Dieu, tu es quand même bon et miséricordieux de leur avoir envoyé uniquement des envoyés en exil. Malgré toute la souffrance qu'il y avait là-dedans, là, c'était énorme. Mais les mots sont bien dits. C'est avec mesure que tu as châtié Israël. Dieu aussi nous châtie, mais des fois c'est avec mesure. Pas parce qu'on mériterait pas beaucoup plus que ça, mais il agit avec mesure. Psaume 119, verset 67. Ça, c'est un beau verset. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Donc, qu'est-ce que le verset nous enseigne? C'est que des fois, on a besoin d'être humilié. Parce qu'il dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Donc, quand l'orgueil te poigne, tu t'égares. Et dans ce temps-là, le Seigneur se sert de l'humiliation pour te ramener. Tu t'égarais, donc il permet que tu sois humilié pour te ramener sur la bonne voie. Le Daniel 11, verset 35. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car il n'arrivera qu'au temps marqué. Daniel 11, 35, c'est un beau livre ça, de prophétie, Daniel 11, 35. Il dit, quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient, afin, ça veut dire dans le but qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis. Donc, à quelque part, le Seigneur se sert des afflictions pour arriver à ses buts. Deuxième point qu'on va regarder, c'est que l'œuvre de la Providence par la commémoration. Donc, on a regardé la première, c'était par la correction, Dieu nous corrige par toutes sortes de façons, et l'autre, c'est par la commémoration. Alors, on a une tendance naturelle à nous égarer et à diriger nos affections de façon désordonnée et de les fixer de manière excessive sur nos propres plaisirs terrestres. N'est-ce pas qu'on a ça? On n'a pas besoin de s'examiner bien longtemps pour voir qu'on est à peu près tous comme ça. Hein? Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait dans ce temps-là? La commémoration, c'est qu'il fait monter des choses à notre mémoire. Alors, ainsi, le Seigneur, dans sa miséricorde, nous corrige en nous rappelant de regarder aux choses importantes et célestes, à sa glorieuse personne et aux choses spirituelles. Autrement dit, il est en train de faire un réalignement de nos valeurs et un réalignement de nos désirs. Les Saintes Écritures, bien entendu, nous donnent plusieurs exemples de ça. On a par exemple le roi Ézéchias. Ézéchias avait aussi une fixation sur les richesses. Alors dans Isaïe 39, ça dit, verset 2, « Ézéchias en eut de la joie. » Et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Le Seigneur s'est servi du fait qu'il a montré toutes ses richesses aux ennemis, et quand les ennemis sont venus, bien, il savait où ce qu'il était, puis il savait exactement qu'est-ce qu'il y avait, puis il a tout perdu. Voyez-vous? Ésaïe 39, versets 6 et 7. « Comment l'Éternel a fait pour corriger le roi Ézéchias? Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont ramassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui sont sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Alors le Seigneur prend une façon d'être que tu as, une façon de voir les choses, et il t'amène à une correction telle qui te fait voir que tu t'en vas vraiment au mauvais endroit, et il te montre les corrections. On a l'exemple du roi David aussi. David dans le psaume 30, versets 6 et 7. Et c'est David qui parlait. « Je disais, dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. » Quand le Seigneur cache sa face, ça veut dire qu'il n'envoie plus de ses bénédictions, de ses grâces à la personne. Et la personne se sent abandonnée et ça fait en sorte que ça t'amène à la réflexion. 2 Samuel. Verset 18, 32, 2 Samuel, chapitre 18, verset 32-33. Comment l'Éternel a corrigé David? Le roi dit à Cushi, « Le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? » Cushi répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils. » Alors, il avait une fixation sur son fils. Son fils était la personne qui cherchait à lui enlever la royauté en voulant le tuer. Et lui, quand il voit, et au lieu d'agir correctement, et on voit que son amour paternel était dépassé à la mesure, comme on peut dire. Et il laissait passer l'amour qu'il avait pour son fils. Il ne se rendait plus compte que son fils était un traître, son fils était un meurtrier. Alors, il faut faire attention dans nos affections pour ne pas dépasser la mesure, comme on dit. On a aussi l'exemple du prophète Jonas, qui n'avait pas eu pitié de Ninive, mais qui avait pitié d'un ricin. Il avait pitié d'une petite plante qui a poussé au-dessus de la tête, mais une ville de 200 000 habitants qui était pour toute crever toute la gang. Il haïssait tellement ce peuple-là qu'il voulait absolument que Dieu les détruise absolument. Alors la miséricorde dans son cœur, elle n'était pas trop forte, là. Mais c'est des sentiments avec lesquels on peut facilement s'identifier. Parce que des fois, avec l'ennemi, quand Dieu permet que des personnes te maltraitent, tu peux être porté à ne pas vouloir intercéder pour la personne. Alors, on va lire ce dernier passage-là, Jonas, chapitre 4, versets 5 à 11. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et se tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit: La mort m'est préférable à la vie. Et Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit: Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit: Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître et qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Tu es en train de dire, tu as pitié d'une plante, puis tu n'as pas pitié de 120 000 personnes qui vivent dans une ville. T'intercèdes même pas pour que j'aie pitié et miséricorde d'eux. À quelque part, je pense que ça nous donne des leçons jusqu'à quel point on peut avoir le cœur dur des fois, envers surtout ceux qui font du mal à nos bien-aimés. Alors, on va arrêter là pour cette semaine et on.